Je voudrais revenir sur un point abordé la dernière fois, ce qui ne va pas nous permettre d'accélérer beaucoup la marche du séminaire, puisque déjà la dernière fois je n'avais pas terminé. Donc si à chaque fois on revient sur les séances antérieures, plus on avance et plus on recule. Mais en même temps, le but justement n'est pas fixé d'avance. On a tout le temps qu'il faut. Alors le point sur lequel je voudrais revenir et insister, c'est celui du caractère éminemment temporel du signifiant et du sujet. Tout d'abord, je vous cite à ce propos un livre qui est sorti il y a peu de temps, de Barbara Cassin, qui s'appelle « Jacques le sophiste », c'est paru chez Eppel, « Lacan, Logos et psychanalyse ». Bon, Barbara Cassin, vous savez, qui est une spécialiste du sophisme, des sophistes, pardon, pas spécialiste du sophisme, spécialiste des sophistes, et qui connaît bien les textes analytiques. Donc je vais juste vous signaler le passage qui concerne la question du Kairos qu'elle aborde et ce qu'elle dit justement sur la façon dont Lacan a transformé le rapport au signifiant par rapport à Saussure, l'a transformé dans une optique et dans une logique sophistique, et non pas aristotélicienne. Et que, ce faisant, justement, c'est une logique qui est une logique temporelle et non pas spatiale. En arrière-plan, en effet, toujours cette question qui court de ce qui fait surface et temps, de ce que Lacan appelle faire surface et temps, en même temps, et principalement avec la topologie, mais que la topologie, on a plutôt toujours l'impression que l'idée que ça se rapporte à la surface, que ça se rapporte à l'espace, etc. Mais en fait, ce qui motive, je dirais, la topologie, plus que l'espace, c'est vraiment le temps. Et c'est donc en arrière-fond cette idée-là qui court à travers cette réflexion sur la question du signifiant. Et c'est pas pour rien, effectivement, que c'est Lacan a appelé ses derniers séminaires, tout dernier séminaire, le moment de conclure et la topologie et le temps. Hein. Donc il met vraiment l'accent sur le temps. Alors quel temps, bien sûr, c'est la question qu'il faut voir. Alors sur la question du Kairos, qui est donc la question du temps est absolument intrinsèque à la logique des sophistes, c'est ce qui fait vraiment leur particularité. Elle recite le proverbe que Freud lui-même cite dans Analyse finie infinie, le lion ne bondit qu'une fois, le proverbe le lion ne bondit qu'une fois a nécessairement raison. Donc c'est la question du Kairos, du bon moment, du moment opportun. Mais c'est une traduction, et elle signale bien qu'il n'y a aucune bonne traduction du terme kairos, et c'est pour ça qu'elle ne le traduit pas, emploie toujours le terme kairos. Et donc le kairos, c'est le nom du but, en tant qu'il dépend tout entier de l'instant, le nom du lieu, en tant qu'il est temporalisé sans reste. Ça nomme le point où une arme pourrait pénétrer de manière fatale. C'est comme le point de défaut de la cuirasse. Et d'après donc des érudits qui ont étudié l'étymologie, la provenance de ce terme kairos, le kairos serait le nom de l'espacement, du vide, de l'ouverture créée par les lys. C'est-à-dire que ça a à voir avec les tresses, ce qui est intéressant. Il y a un rapport entre cette temporalité et la question du tressage, Donc Hélice et Galé montrent qu'il ne s'agit pas de cette ouverture même, mais plus exactement de la tresse régulatrice qui, comme notre peigne, sépare les fils de chaîne en les maintenant parallèles pour qu'ils ne s'embrouillent pas, les reliant aussi du même coup, et qui règle ainsi à la fois l'ordre vertical et l'ordre horizontal d'insertion de la trame en délimitant la zone de travail. Donc, avec le kairos, les mots sont à la fois décochés et tissés. Le kairos, c'est le passage qui permet de faire l'économie du télos, c'est-à-dire de l'idée de finalité. Et elle, bien sûr, elle cite le temps logique de Lacan, assimilant en quelque sorte ce qui peut être critiquable, mais enfin c'est le plus juste sûrement dans ce rapprochement, c'est-à-dire assimilant le kairos à la fonction de la hâte dans le temps logique. Et elle souligne donc que Lacan, il parle de la valeur sophistique de la solution dans le dispositif du temps logique. Non pas parce qu'il y aurait faute de raisonnement, hein, comme souvent on emploie le terme sophisme, c'est une faute de raisonnement. Ça, c'est la tradition qui dévalorise l'enseignement des sophistes. Mais non pas parce qu'il y a faute de raisonnement, mais pour de bon, parce que le temps fait partie de la logique. C'est donc ça qui spécifie la sophistique, c'est que le temps fasse partie de la logique, et effectivement, dans le temps logique de Lacan, c'est pour le temps, évidemment, fait partie de la logique, et c'est pour ça que Lacan a appelé ça un nouveau sophisme. Ce qui, vous savez, peut conduire à l'interrogation, mais alors, qu'est-ce qu'il veut dire par un nouveau sophisme? En quoi le temps logique est un sophisme? Qu'est-ce que ça veut dire? À mon avis, plusieurs choses. Ça veut dire, vous savez, justement, si vous relisez le texte, vous verrez que Lacan parle de la valeur sophistique de la solution, c'est-à-dire, si on voit de noir, on sort tout de suite, l'autre ne sortant pas, il doit voir, etc. Et Lacan donne une première solution, ce qu'il appelle la solution parfaite, une solution qu'il appelle sophistique. Mais il ne s'arrête pas là, puisque cette solution sophistique, pour être validée en quelque sorte, doit être prolongée par deux scansions au cours desquelles les prisonniers sortent. Deux scansions, ce que Lacan appelle signifiant. Et c'est à l'issue de ces deux scansions qu'en effet, les prisonniers disent « je suis blanc ». Et que, du coup, on peut dire, alors à ce moment-là, ce n'est plus un sophisme, puisque Lacan a récusé une solution qui serait dite sophistique, mais il trouve la bonne solution pour démontrer le problème. Eh bien, ce que dit Barbara Cassin est un élément de réponse, c'est-à-dire que effectivement, dans la mesure où, dans cette logique, le temps intervient et est partie constituante de la logique, de la solution, eh bien, à ce titre, on peut dire qu'il s'agit d'un sophisme, c'est-à-dire parce que, effectivement, c'est une solution qui, et Lacan le souligne aussi dans son texte quand il dit que c'est pas quelque chose qui peut être vu d'un seul coup, c'est-à-dire qui nécessite, et ça, tous ceux qui se sont essayés à cette lecture et à reprendre pour eux-mêmes la démonstration du temps logique l'ont éprouvé, c'est-à-dire à chaque fois qu'on est arrivé à la fin de la solution, qu'on a cru comprendre comme ça, c'est pour ça que je ne le refais pas, là, cru comprendre le raisonnement qui aboutit à la solution, il faut recommencer. C'est-à-dire qu'on n'est jamais, on ne peut jamais considérer que c'est acquis une fois pour tous. C'est-à-dire, et ça, c'est effectivement sophistique. C'est quelque chose qu'il faut à chaque fois reparcourir, un chemin qu'il faut reparcourir, qui n'est jamais visible d'un seul coup, qu'il faut reparcourir pour. Et parce que pour trouver la solution, et solution donc, ce qui veut dire qu'une fois qu'on trouve la solution, immédiatement une fois qu'on l'a trouvée, elle échappe en quelque sorte. C'est pour ça que ça pose une question, on verra tout à l'heure, une question sur ce qu'on peut appeler le moment conclusif, c'est-à-dire de quoi s'agit-il au fond quand on parle d'un moment conclusif, puisque justement au moment conclusif, ça échappe. Il y a quelque chose en tout cas qui échappe. Et ça, donc ça, c'est le point, je pense, effectivement, principal pour dire qu'il s'agit d'un sophisme, qu'on est dans une logique sophistique. Et Barbara Cassin dit, non pas parce qu'il y aurait faute de raisonnement, effectivement, c'est pas qu'il y ait faute de raisonnement, mais ce qui est intéressant dans l'ontologie quand même, c'est de voir que c'est à partir d'une erreur, de faire l'hypothèse d'une erreur, que le sophisme peut se dérouler. C'est-à-dire que c'est quand même la mise en jeu, l'hypothèse au départ d'une erreur, de la faute, c'est-à-dire si on voit de noir, il n'y a pas de noir, puisqu'ils sont tous les trois blancs, donc c'est une erreur, on pose d'abord l'erreur, on fait l'hypothèse d'une erreur, et c'est en suivant, en s'appuyant sur l'hypothèse d'une erreur, que effectivement on arrive à la solution. Donc ça, c'est aussi intéressant. Donc c'est, elle écarte ça un peu vite, la faute de raisonnement, parce que la faute de raisonnement est quand même présente comme élément du cheminement vers la solution. voilà, alors ça c'était pour le temps logique, et donc elle prolonge cette histoire du kairos, donc comme interprétation décochée, le trait là est tissé. Hein. Temps efficace donc du discours. Et donc par contraste avec ce qui se passe, disons, dans, par exemple, elle cite le Gorgias de Platon, où le temps, dit-elle, se réduit à l'espace. Un discours est un organisme qui s'étale, il a un plan et s'articule. Hein, il faut savoir, dit Platon, le découper. La rhétorique est adossée chez Aristote à toute la physique et à tout l'organon qui organise les logoi, les en même temps, hein, le principe de non-contradiction. Ça ne peut pas être vrai et faux en même temps. Et qui fait passer, donc dans cette logique d'Aristote, qui fait passer, dit-elle, la considération de l'énonciation à celle de l'énoncé. Donc elle oppose clairement une rhétorique du temps, qui est du côté des sophistes, hein, et une rhétorique de l'espace, rhétorique philosophique aussi, de l'espace, du côté de la logique traditionnelle de Aristote, par exemple. Et ce qui est intéressant, donc, c'est qu'elle montre comment, effectivement, Lacan a utilisé les formules de rhétorique, hein, les deux grandes figures de rhétorique que sont la métaphore et la métonymie, donc ces agencements du signifiant. Il les a utilisés non pas dans cette logique spatiale, qui est la logique de la rhétorique classique, hein, mais dans une logique temporelle, et que ça fait toute la différence. Donc ça, je crois que c'est très intéressant qu'elle remarque ça. Rien de plus explicitement spatial, dit-elle, que ces répertoires techniques chevillés aux arts de la mémoire, qui disent où chercher et à quel tracé mobiliser. Or, là encore, la sophistique se caractérise d'échapper à la spécialisation. La métaphore et la métonymie sont deux manières bien connues de faire de la géométrie panoptique en établissant une analogie de proportion ou en composant la partie pour le tout. Il s'agit toujours de voir le semblable. Voilà. Donc effectivement, la rhétorique, qui commence avec les arts de la mémoire, et la mémoire, c'est les arts de la mémoire, c'est effectivement une référence spatiale, puisque ça fait tout au long des siècles comme ça, avec cette histoire qu'on a racontée de... Ça a commencé par associer des lieux avec des éléments de mémoire, l'histoire de Simonide qui avait un dîner avec des personnalités, le toit s'est écroulé, il était le seul survivant, et après, pour pouvoir identifier chacun des morts, eh bien, il a fait à partir de la place que chacun occupait au banquet. Et donc, à partir de là, effectivement, c'est les arts de la mémoire, c'est associer des lieux, alors évidemment des lieux plus ou moins sacrés, avec des idées, avec tout ça. Et tout ça, c'est le fonctionnement de la rhétorique aussi. Et donc c'est quelque chose qui a un fondement spatial. Mais, donc contrairement à cet usage, ce fondement spatial de la rhétorique, Lacan, lui, a ce geste, hein, de s'approprier la métaphore et la métonymie à partir du signifiant et non plus à partir du signifié. Hein, on l'avait vu la fois dernière, cette séparation qu'il fait entre les deux, si bien qu'il les fait passer d'une rhétorique de l'espace et du signifié à une rhétorique du temps et du signifiant. Et à ce titre, la métonymie est première par rapport à la métaphore. Et c'est qu'effectivement, quand vous lisez l'instance de la lettre, Lacan ne reprend pas la définition classique de la métonymie, une partie pour le tout, c'est tout à fait autre chose qui fait jouer, c'est-à-dire il fait jouer le glissement du sujet sous le signifiant. Bon, donc ça me semblait important de rajouter, si vous voulez, cet élément à ce qu'on a dit la fois dernière par rapport à l'usage la transformation que Lacan a faite du signe de Saussure et l'usage qu'il fait du signifiant, comme ça, déconnecté du signifié. Donc ça, c'est une première chose. Et dans le même ordre d'idées, je voudrais insister sur ce caractère temporel de l'entre, hein, entre, la préposition entre, sur laquelle donc j'avais introduite la fois dernière. La préposition, hein, ce qui est posé, donc position avant préposition. Le avant étant d'ailleurs pouvant être un peu quelque chose d'ambigu, parce que souvent, selon les contextes, finalement, signifié devant ou derrière. Mais bon, sur cette préposition entre, donc sur quoi je m'appuie pour aborder la question du sujet, hein, donc la dernière fois c'était entre les signifiants, et cette préposition entre, donc lui. Insister sur son caractère temporel qui est irréductible à du spatial, c'est-à-dire qu'il y a du spatial, bien entendu, mais qu'il y a une dimension temporelle irréductible au spatial. Et que la topologie, c'est précisément ça qui soutient la topologie, en tout cas telle que Lacan l'a fait fonctionner. Et je vous... Donc, pour vous donner une parole d'autorité, donc je vous citerai un passage de RSI, où, donc c'est dans le 13 janvier 1975. L'être qui parle est toujours quelque part mal situé entre deux et trois dimensions. Donc, je ne pas. Donc il y a toute l'histoire que l'espace est plat, qu'on avait vu, la surface c'est plat, il n'y a pas d'épaisseur, bon. Voilà. En un certain sens, dit Lacan, je dirais qu'il y a quelque chose de nouveau à ce qu'on s'intéresse à des mots, à des termes comme celui de la mésologie. Qu'est-ce qu'il y a entre ? Entre quoi et quoi ? Il s'agit de définir qu'est-ce que c'est entre. Vous voyez, on ne peut pas finalement être plus clair. Oui, je t'entre, c'est mon tantrisme, à moi. Entre est une catégorie qui a fait son apparition tout récemment dans la mathématique. Et alors là, j'ai essayé de rechercher, mais je n'ai pas trouvé. Si quelqu'un le trouve, ce serait bienvenu. Comment les mathématiciens... font usage de ce terme de entre. Et c'est bien en cela que de temps en temps, je vais consulter un mathématicien pour qu'il me dise où ils en sont à cet égard. Donc la mésologie, hein, mésologie, vous savez, méso, c'est entre, hein, vous connaissez le mésoderme en anatomie, et tout le monde n'a pas fait l'anatomie, mais enfin, il y a le mésoderme, il y a l'ectoderme, il y a l'endoderme, hein, il y a le mésenchyme, enfin le méso, c'est entre, voilà. Et donc une mésologie, ce que Lacan propose, une mésologie, et cette mésologie, c'est concrètement articulée avec la question, là pour le coup, du neuroméen, et plus précisément du réel, puisqu'il situe à ce moment-là le réel dans l'existence, existence, c'est-à-dire ce qui se trouve en dehors, c'est-à-dire à partir du moment où on ouvre les consistances, où on voit l'espace qui est entre les consistances. Donc c'est, vous voyez, tout ce que Lacan va ensuite nommer dans les mises à plat du neuroméen, mais à partir de cette considération de ce qui est entre les ronds du neuroméen. Et par exemple, c'est que dans ce qui est l'existence, nous jaspinions quelque chose qui participe du général, alors que tout ce pourquoi c'est fait, mon petit neuroméen, c'est pour vous montrer que l'existence, c'est de sa nature ce qui est ex, ce qui tourne autour du consistant, mais qui fait intervalle, et qui, dans cet intervalle, a 36 façons de se nouer. Justement, dans la mesure où nous n'avons pas avec les nœuds la moindre familiarité, ni manuelle, ni mentale. Et c'est la même d'ailleurs. Donc, dans l'intervalle. Donc, vous voyez, cette question de l'antre, de l'intervalle, de la mésologie, et complètement, enfin, est une notion qui émerge là chez Lacan avec le neuroméen et plus précisément la question du réel à partir de là. Puisqu'on était dans les lectures, je vous signale à propos de l'antre aussi, le livre de François Julien qui s'appelle Quelques concepts. Proposé à la psychanalyse, 5 concepts, ou 4, je ne sais plus, proposé à la psychanalyse, et dans son dernier chapitre, qui est sur les transformations silencieuses, François Julien, qui est un sinologue, qui est très productif, et qui, donc ce dernier chapitre qui s'appelle Transformations silencieuses, insiste beaucoup sur la question de l'antre, de la relation, en tant que c'est justement une notion qui est très présente dans la philosophie ancienne chinoise, puisque son propos, c'est d'éclairer, à partir de la philosophie chinoise, des points, des notions, justement, dans la psychanalyse. Alors, ça lui permet d'éclairer, effectivement, de mettre le doigt sur certains termes analytiques, voire en proposer à la psychanalyse, qui sont judicieux, mais sa démarche va au-delà, puisque justement, il tente évidemment de ramener la couverture à lui, c'est-à-dire à une interprétation chinoise de ces termes, en quelque sorte. Bon. Mais, donc, le entre qu'il, sur lequel il met l'accent pour la psychanalyse, il le tire du côté de ces transformations silencieuses, sans acte véritablement, qui se passent entre les termes, le yin et le yang, par exemple, dans la philosophie chinoise. Alors, pour cette question toujours du entre, il y a et la question donc du temps, hein, puisque cette question du entre au niveau temporel, eh bien, il y a le premier exemple que Lacan donne avant les neuroméens, c'est celui du graphe. Celui du graphe avec les deux lignes, donc les deux lignes qui croisent supérieure et inférieure, donc il fait correspondre la supérieure à l'énonciation et l'inférieure à l'énoncé. Et donc il va s'intéresser, Lacan va s'intéresser et va situer précisément le désir entre les deux lignes, entre la ligne de l'énonciation et la ligne de l'énoncé. Il va situer là l'objet, enfin le désir et le fantasme entre les deux. Et parce que c'est ce qui c'est dans le séminaire, je vous signale le désir et son interprétation, particulièrement la séance du 10 décembre 58. Il explique bien qu'il n'y a pas donc d'adéquation du sujet à son objet. C'est-à-dire que l'objet n'est pas un objet de besoin, l'objet de désir n'est pas un objet réductible à un objet de besoin pour le sujet. Il n'y a pas adéquation entre les deux. Donc où se situe l'objet en rapport, c'est plus dire l'objet de désir est déjà trop dire de ce fait, c'est un objet en rapport avec le désir. Et Lacan ensuite précise ce rapport, c'est celui du fantasme, c'est le fantasme qui constitue ce rapport du sujet à un objet, qui constitue l'intermédiaire de ce rapport du sujet à l'objet. Eh bien, l'objet, pourquoi ? Parce que l'objet, cause de désir, si vous voulez, surgit à un moment particulier, donc là aussi il y a une relation temporelle, au moment où le sujet doit faire face à son existence dans le langage, c'est-à-dire où il cherche à se nommer. Se nommer et nommer son signifiant dernier, et il y a là une nomination défaillante. Il ne peut pas le faire, il ne peut pas saisir son existence, sa nature de langage, qu'au moment où lui, justement, sujet, doit s'effacer, s'évanouir derrière un signifiant. Et donc, panique, il y a un vide, là, il y a un moment où il va pouvoir le saisir, c'est ce moment où il s'évanouit, justement, derrière le signifiant. C'est pour ça que Lacan dit, il n'y a pas d'autre signe du sujet que celui de son abolition de sujet. Et donc, dans ce moment de défaillance, de nomination, de panique, au terme de Lacan, eh bien, il se raccroche à un objet cause de désir, d'un désir indestructible, dit Freud, à la fin de la trompe de Thoul. Et donc c'est cela dont il faut avoir l'idée quand on parle du sujet et de l'objet, c'est l'objet auquel il se raccroche dans ce moment de défaillance, de nomination du signifiant qui viendrait le représenter, dernièrement en quelque sorte. Et pour ça, donc ça c'est une petite digression que fait Lacan dans ce séminaire, pour introduire à l'analyse qu'il fait de ce rêve que rapporte Freud sur le « il ne savait pas qu'il était mort ». C'est un rêve, je rappelle brièvement si vous vous en souvenez pas, que Freud fait que Freud rapporte dans un texte en 1911 et puis qui réintroduit ensuite dans la trompe de Tung. Et donc c'est le rêve d'un homme qui a assisté à la maladie de son père et avec beaucoup de douleur, beaucoup de douleur, et qui est une maladie qui a duré longtemps, et son père donc qui a fini par mourir, et il fait un rêve, le fils donc fait un rêve peu de temps après la mort de son père, où il rêve qu'il voit son père mort, mais il ne savait pas qu'il était mort. Hein. Bon, c'est un rêve finalement assez typique. Enfin, je pense que vous-même avez pu écouter déjà, dans les analyses, déjà écouter ce genre de rêve. On voit une personne qui est morte et qui ne sait pas qu'elle est morte. Et donc, tout le génie de Freud, c'est de faire un rajout, hein, parce que pour interpréter ce rêve, il rajoute la phrase, oui, l'expression selon son vœu, c'est-à-dire ce qu'il donne. Le père ne savait pas qu'il était mort, selon son vœu, le vœu du fils. Hein. Et il inscrit donc ce rêve sur le graphe. Toujours donc dans ce même séminaire du 10 décembre 58. Hein. avec les flèches là qui. Là. Donc, sur la ligne inférieure, donc il a mis encore fois de l'énoncé, hein, c'est, il a écrit la phrase il était mort. Sur la ligne supérieure, donc de l'énonciation, il écrit il ne savait pas. Et donc tout ça c'est en pointillé puisque c'est rajouté, c'est donc l'inconscient, hein, selon son vœu. Et bien, selon son vœu. Alors je vous passe la longue analyse que fait Lacan ce rêve, mais qui est extrêmement précise et très, enfin, très intelligente, quoi. Et donc pour aller directement au résultat, où à la fois il valide, enfin il reconnaît bien sûr la valeur de l'interprétation de Freud, mais en même temps, il ne s'y arrête pas, c'est-à-dire qu'il ne considère pas que c'est la fin possible de cette interprétation et qu'on peut tirer de ce rêve exemplaire, donc qui fait un paradigme en quelque sorte, comme d'autres manifestations de l'inconscient, on peut en tirer autre chose. À savoir que, bon, il ne savait pas qu'il était mort selon son vœu, selon le vœu du fils. Bon, ça renvoie au vœu que, et effectivement, qui a été conscient que le père mort pendant cette longue maladie, le fils souhaitait la mort de son père pour abréger ses souffrances. Bon, donc c'était un vœu conscient. Bon, ça c'est la partie consciente, Freud le dit, mais derrière cette partie consciente, il y a une partie plus ancienne de vouloir la mort du père quand il était enfant. Donc le vœu de castration du père. Donc ça, c'est effectivement la partie plus inconsciente pour Freud, hein, de ce représentant selon son vœu. Mais là où Lacan fait un pas de plus, c'est qu'il dit... Ce vœu de castration du père se retourne sur le sujet. En fait, ce dont le sujet reste inconscient, qu'il ne voit pas, qu'il méconnaît, eh bien, c'est le fait que ce vœu de castration du père se retourne sur lui, c'est-à-dire il s'agit de sa propre castration, donc du sujet rêveur. Et là, c'est là où vraiment... Donc on voit comment l'usage des termes est important parce que effectivement ce terme de vœu c'est le terme Wunsch, hein, et le terme Wunsch en allemand, bon, Lacan a dit quelque part que c'est là il le traduit vœu, ce qui est proche, mais c'était quelque chose qui était entre la demande et le désir, hein. Et là ce que va faire Lacan, c'est que justement il va dire bon ben il y a un vœu, il y a un Wunsch, mais ce Wunsch lui-même est au fond un masque encore, est encore un masque. Hein, est un masque, masque de quoi? Du désir, proprement dit. C'est là, c'est la subtilité qu'il introduit. C'est que... Donc, ce qui est, pour reprendre le terme de Freud, refoulé, mais en tout cas, ce que le rêveur, le sujet, ne veut pas savoir, il ne savait pas, hein, cette énonciation de « il ne savait pas qui » donc se retourne sur lui, il ne savait pas que moi, c'était la question de ma castration dont il était question, et bien ce « il ne savait pas » qui se retourne sur le sujet lui-même, c'est « il ne sait pas, je ne sais pas », non mais c'est même faux, parce qu'on ne peut pas dire justement « je », c'est-à-dire c'est le sujet, c'est « il ne sait pas », donc le sujet « il ». Ne sait pas que le vœu est un masque du désir, c'est-à-dire que la subsistance du sujet, de sujet, tient au signifiant qui se trouve entre l'énoncé et l'énonciation, le selon, le nar, en allemand. Dans un autre, quand il le reprend, il emploie un autre terme, enfin voilà, c'est le nar dans le premier terme. Donc, tient au signifiant entre énoncé et énonciation, le nar qui fait rapport, ce signifiant qui fait le rapport entre les deux, qui se trouve entre les deux dans l'intervalle, et qui fait le rapport entre l'énoncé et l'énonciation, qui fait un rapport d'accord ou de discord, peu importe, hein, mais qui fait rapport entre deux termes, et qui est édité. Et que donc c'est ça que le sujet, sur quoi porte l'énonciation qu'il ne sait pas, que sa subsistance finalement de sujet tient uniquement à ce signifiant qui fait ce raccord, qui fait cet raccord entre l'énoncé et l'énonciation, et qui est élidé dans son rêve. Et donc, par rapport à ça, effectivement, donc qui est ce point où que tout à l'heure je vous disais, par exemple, quand le sujet veut saisir son existence, eh bien voilà, cette saisie de son existence, c'est dans le selon. Mais arriver à ce selon qui ne saisit pas, justement, eh bien, il y a élision et il y a quoi à la place? Il y a l'objet, comme Lacan, je le disais tout à l'heure, l'objet. Qui est l'objet du fantasme, le petit A, enfin, ce qui va devenir le petit A, il va répondre son petit A, donc ce qui est l'objet, et là l'objet c'est le père, quoi. C'est-à-dire c'est le père qui est l'objet, qui apparaît dans le rêve, l'image du père qui apparaît dans le rêve, et donc qui retient le sujet sur le précipice en quelque sorte de son abolition de sujet au moment où il atteint justement le signifiant qui est celui de sa subsistance de sujet. Voilà, donc vous voyez, je vais essayer de résumer un peu vite, mais vous pouvez vous reporter à ce séminaire, et donc c'est pour bien, encore une fois, montrer à quel point tout ça, cette la question du sujet, puisqu'il s'agit là du sujet, est pris dans une logique temporelle. Hein, et que, c'est absolument inéliminable de cette question du sujet. On ne peut pas parler du sujet sans parler de ces moments de défaillance, d'évanouissement, etc. Et ça concerne la question du temps temporel, concerne le sujet, mais ça concerne le sujet dans son rapport au signifiant, et parce que le signifiant lui-même est temporel, temporalisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, on ne peut pas parler de signifiant sans introduire une dimension de temps. Et c'est dans ce même séminaire 10 décembre 58 que Lacan fait compte, alors est-ce qu'il faut en compter deux ou trois, mais l'apparition du signifiant à partir de la trace de pas. Chose qui va reprendre ensuite dans ce séminaire de l'identification que un certain nombre d'entre nous allons travailler cette année, dans la séance du 24 janvier 62. Je vous le rappelle brièvement, donc dans des sessions d'interprétation 10 décembre 58, pour expliquer l'avènement comme ça du signifiant, donc c'est un avènement temporel. Il prend l'exemple de la trace de pas de vendredi, par exemple, sur l'île où se trouve Robinson. Eh bien, il y a d'abord trace de pas, ensuite effacement de la trace de pas, puis annulation de l'effacement par une barre sur une autre barre, une croix en quelque sorte, un nom de nom. Et c'est-à-dire, c'est le signifiant qui s'annule lui-même. Et il fait passage en quelque sorte du pas de trace à la trace de pas. Voilà. Pas de trace de pas. Mais alors est-ce qu'il y a deux temps ou trois temps? C'est pas tout à fait clair. Dans l'identification, il compte trois temps. Hein. C'est-à-dire le premier temps, en quelque sorte, c'est on s'efforce d'effacer la trace. Et là, dit-il, je suis sûr que j'ai affaire à un sujet. C'est-à-dire que si il y a effacement de trace, il y a effacement. On est sûr qu'on a affaire à un sujet réel. Observez que dans cette disparition de la trace, ce que le sujet cherche à faire disparaître, c'est son passage de sujet à lui. Donc, il y a là un battement en éclipse, dit-il, fading, le terme qui reprendra donc dans les quatre concepts. Ceci dit, si la trace est effacée, le sujet en entoure la place d'un cerne, quelque chose qui dès lors le concerne lui, le repère de l'endroit où il a trouvé la trace. Eh bien, vous avez là la naissance du signifiant. Ceci implique tout ce processus comportant le retour du dernier temps sur le premier, qu'il ne saurait y avoir d'articulation d'un signifiant sans ces trois temps. Une fois le signifiant constitué, il y en a forcément deux autres avant. Alors, est-ce que c'est deux ou trois? C'est pas absolument clair. Mais ce qui se passe, donc, c'est qu'il y a la trace, l'effacement de la trace, et donc dans cet effacement de la trace, il semble que déjà, c'est la naissance du sujet, mais le signifiant, c'est quand il y a on marque la trace, disons, d'un trait et qu'on barre ce trait, qu'on fasse une croix en quelque sorte pour barrer le trait, c'est-à-dire une barre sur la barre. Là, il y a le signifiant, c'est-à-dire en quelque sorte cette annulation de la barre qui a marqué la trace effacée. Oui. Alors, c'est pas très clair pour compter le nombre de temps, et c'est d'autant moins clair que, effectivement, dans l'Iturater, en 71, donc bien longtemps après, ça se trouve dans d'autres écrits, Lacan, en fait, n'en compte que deux. Il écrit la chose suivante: le ruissellement est bouquet du trait premier et de ce qui l'efface. Donc, trait premier et ce qui l'efface. Je l'ai dit, c'est de leur conjonction, donc un trait et ce qui l'efface, qu'il se fait sujet. Mais de ce que s'y marque deux temps. Il y faut donc que s'y distingue la rature d'aucune trace qui soit d'avant, c'est ce qui fait taire le littoral, littura pur, c'est le littéral. Le produire, c'est reproduire cette moitié sans père dont le sujet subsiste. Une moitié sans père dont le sujet subsiste. Donc une moitié sans père, vous voyez, c'est quelque chose comme un peu le couteau de sans lame ni manche de je ne sais plus son nom là, ce écrivain allemand. Comment? Hein? Hein?
Le couteau de Jeanne. Ah
non. Non. Le couteau sans... Lichtenberg, voilà, c'est ça. Couteau de Lichtenberg, couteau sans lame ni manche. Une moitié sans père dont le sujet subsiste. Une moitié sans père. P.A.I.R. Alors, voilà, c'est pas très clair de savoir si il y a un ou deux temps, mais de toute façon, il y a des temps. C'est ça que je voulais vous dire principalement, c'est que, voilà, la naissance du sujet, il faut compter des temps. Trois ou deux, bon, ça se discute, mais en tout cas, il faut compter des temps. Et des temps, dont un temps d'effaçage, de rature. Là il compte deux sans doute parce qu'il dit rature d'aucune trace d'avant, quoi. Donc effectivement il y a la rature d'aucune trace qui soit d'avant, donc effectivement si on compte pas l'effacement de la trace comme premier temps, rature d'aucune trace d'avant, ça fait plus que deux temps. Bon. Donc tout ça, si vous voulez, vous voyez, sont des exemples, mais on pourrait en trouver d'autres qui viennent conforter et qui viennent s'ajouter à ce passage que je vous avais lu la fois dernière dans les quatre concepts à propos de ce mouvement de fading comme ça du sujet, que je vous relis encore. Donc c'est dans les quatre concepts, page 33, nous retrouvons ici la structure scandée de ce battement de la fente dont je vous évoquais la fonction la dernière fois. L'apparition évanouissante se fait entre les deux points, l'initial et le terminal de ce temps logique. Entre cet instant, vous voyez donc, on est bien dans l'antre, entre cet instant de voir où quelque chose est toujours éludé, voire perdu, de l'intuition même, et ce moment élusif où précisément la saisie de l'inconscient ne conclut pas, où il s'agit toujours d'une récupération leurrée. Conséquemment, donc, l'inconscient, c'est l'évasif, mais nous arrivons à le cerner dans une structure temporelle, dont on peut dire qu'elle n'a jamais été jusqu'ici articulée comme telle. Donc, vous avez dit, je reviens sur le fait que Lacan, là, se réfère au temps logique et que ça pose la question, justement, de la conclusion du temps logique, puisque le temps logique conclut. C'est justement une conclusion anticipée, certes, mais c'est une conclusion, c'est une certitude anticipée, une conclusion, le moment de conclure. Et donc, quand il dit qu'il prend comme modèle le temps logique et en même temps, il dit que c'est un moment élusif qui ne conclut pas, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on n'est plus dans le temps logique, qu'on est à un moment, en quelque sorte, antérieur à la conclusion du temps logique? Ou est-ce que, moi j'irais plutôt dans ce sens-là, mais c'est à voir, c'est-à-dire, est-ce que c'est justement une façon de dire que la conclusion, ce que je disais tout à l'heure, une fois faite, le moment, une fois la conclusion faite, une fois le moment de conclure agi, en quelque sorte, acté, eh bien le moment est passé, il est à refaire. Et donc dans la conclusion même, il y a quelque chose, au fond, qui, bien que ça soit conclusif, quand même ne conclut pas. Et voilà, bon, mais enfin, vous voyez, ça c'est quand même une question qui est à débattre. Et donc vous voyez qu'à travers cette insistance que j'ai sur d'une part le entre et d'autre part le prendre dans sa dimension temporelle, eh bien, il y a, ça soulève d'autres questions qui accompagnent cette recherche. Deux questions tout au moins. D'une part, cette question de ce qui fait surface et temps, hein, du même coup, comme Lacan le cherche. Il dit qu'il cherche ce qui fait surface et temps. Bon, il a trouvé des choses qui font surface et temps, mais c'est quelque chose vis-à-vis de quoi il est toujours en recherche. Et d'autre part, de quel temps s'agit-il? C'est-à-dire, quel temps s'agit-il? Est-ce que on est toujours dans le... Quand on parle du temps, on est toujours dans ce rapport, enfin, dans ce modèle du temps logique, ou pas? Et, en particulier, quand il va s'agir des nœuds broméens. Voilà. Alors... La dernière fois, on avait parlé des surfaces, de la surface de la bouteille de Klein, principalement, pour parler de cette question de l'antre, hein, avec la question de l'unheimlich, de l'heimlich qui devient unheimlich, donc ce mot équivoque, enfin ambivalent. Eh bien, à partir du moment où on passe à la topologie des nœuds, on va changer en quelque sorte. Et donc, pardon, oui, cette question des surfaces, donc, je l'avais prise à partir de l'antre entre deux signifiants, c'est-à-dire la question, donc, de un signifiant représente le sujet pour un autre signifiant, donc, de l'antre, question de l'antre par rapport au signifiant qui se travaillait pour Lacan avec la topologie des surfaces et donc de la bouteille de Klein. Voilà. Mais à partir du moment où on passe à la topologie des nœuds, on change d'une certaine façon l'abord de l'entre et de l'entre-deux du sujet, qui est le thème donc que je développe cette année, de l'entre-deux, de l'entre-deux-air, l'entre-deux du sujet. Et dans le, avec les nœuds, le comptage du sujet part clairement à partir d'un 3 premier, le 3 du nœud borroméen. Et donc cela ouvre, donc c'est ce qu'on va voir, on va commencer à voir un peu aujourd'hui, ouvre une autre approche. Ça ne supprime pas l'approche du signifiant, de l'entre-signifiant, mais ça amène autre chose sur la question de l'entre. Autre chose liée au nœud borroméen et qui est la fonction du serrage, dans lequel il y a le mot air aussi, serrage, la question du tiraillement, la question du coinçage, la question de l'entraînement, de ces trois dimensions RSI du nœud borroméen. Et aussi la problématique de l'air. Qui est donc dans le mot lui-même serrage, d'où donc cette nouvelle logique, si c'est trop fort de dire ça, mais enfin cette nouvelle approche de l'entre-deux du sujet comme entre-deux airs dans une problématique du serrage, du coinçage, du tiraillement. Le coinçage, c'est un peu. Vécu comme un peu négatif, disons donc du tiraillement du sujet entre deux airs. Donc je préciserai bien sûr plus tard ce que c'est que ces entre deux airs. Sur cette question du tiraillement, il faut bien se rendre compte, c'est qu'effectivement Lacan résonne avec ces termes, c'est-à-dire que bien sûr, ce sont toujours des métaphores d'une certaine façon, mais c'est des métaphores qui sont complètement attachées au nœud. Et c'est ce qui fait, par exemple, dans sa séance du séminaire du 9 janvier 1979, donc dans le dernier séminaire de Lacan, où il présente un nœud borroméen à trois consistances, mais avec 12 croisements, donc il y a une figure particulière du nœud borroméen sur lequel il s'attarde sur ses propriétés, et il prend littéralement, enfin la manipulation du nœud borroméen est prise littéralement. Et c'est à partir de cette prise littérale de la manipulation du nœud borroméen qu'il en tire des conclusions. Puisqu'il dit que ces trois ronds de borroméens qui sont, dont deux sont en une position symétrique et un au milieu, avec 12 croisements. Il fait remarquer que si on tire l'un d'entre eux vers la droite, ce sont les deux autres qui sont entraînés et on ne sait pas ce qu'il en est de ce qui peut résulter de cet entraînement. En tout cas, ce sont les deux autres. Et ce n'est pas le même cas pour si on tire un autre de ces trois. Et on voit la différence d'approche aussi avec Souris, parce que Souris fait une description de ces nœuds beaucoup plus statique, c'est-à-dire il repère la symétrie de deux des anneaux et qu'ils peuvent se défaire par homotopie, etc. Des choses donc qui le prend l'analyse à partir d'une mise à plat, comme ça, alors que Lacan a à partir des mêmes données, finalement, on voit à une approche totalement différente, qui est une approche en mouvement, qui est une approche temporelle, qui consiste à tirer comme ça sur les anneaux, pour voir si quand on en tire sur un, les deux autres viennent ou pas, ou il n'y en a qu'un seul qui vient, et jusqu'où on tire pour que ça change le cas de figure des trois anneaux. Donc c'est quand même assez particulier, si vous voulez, et à partir de là, c'est à partir de ça, simplement qu'on tire, et ça vient ou ça vient pas, que il va quand même, dans ce séminaire, aboutir à la conclusion, bon ben puisque c'est comme ça, puisque quand on en tire, il y en a deux qui viennent, et ben mon œuvre roméen, il tient plus, ça sert plus à supporter RSI, tout ça c'est fichu, tout est perdu, etc. Ça dans le 9 janvier. Donc. Alors évidemment, beaucoup de gens se sont réjouis à ce moment-là, et beaucoup de gens se sont réjouis de dire, ah voilà, enfin, Lacan abandonne la topologie, c'est formidable, vous voyez, on vous l'avait bien dit, tout ça c'est ridicule, ça ne tient pas, voilà, Lacan reconnaît ses erreurs, et on est enfin débarrassé de la topologie, et de Lacan aussi, bien entendu, voilà. Bon, manque de bol, il se trouve qu'après, Souris et Lacan ont discuté, Souris est revenu sur ce qu'il avait dit, et que pas du tout, donc c'était pas du tout contradictoire, enfin, et que en fait, Lacan a continué à parler du nœud coronien par la suite. Bon. Mais voilà, en tout cas, à cette séance-là, il n'a pas hésité publiquement, comme ça, devant tout le monde, à dire, ben voilà, c'est... Le monobroméen, ça supporte. Voilà, qu'il n'y ait pas de rapport sexuel, c'est ce qui est l'essentiel de ce que j'énonce. Qu'il n'y ait pas de rapport sexuel parce qu'il y a un imaginaire, un symbolique et un réel, c'est ce que je n'ai pas osé dire, je l'ai quand même dit. Il est bien évident que j'ai eu tort, mais je m'y suis laissé glisser, tout simplement. C'est bien embêtant, c'est même plus qu'ennuyeux. C'est d'autant plus ennuyeux que c'est injustifié, c'est ce qui m'apparaît aujourd'hui, c'est dans le même temps ce que je vous ai dit. Vous voyez, c'est vraiment l'impression que tout s'est coulé. Voilà, donc, mais c'est pour bien vous montrer comment, dans cet usage de la topologie, particulier de Lacan, à la fois prise en compte littérale de deux de mouvements, de choses temporelles. Alors, cette question de... si vous voulez, de l'air, du serrage, bon, elle apparaît avec le nœud borroméen, mais... Elle apparaît déjà aussi avant, mais de façon beaucoup plus fugace. Elle apparaît où ? Elle apparaît, voilà, dans ce texte sur l'Holbechstein, le petit texte que l'écrit que Lacan a fait sur l'Holbechstein de Marguerite Duras, qu'il a écrit en 1965, c'est-à-dire la même année que les problèmes cruciaux, et où donc se trouve cette fameuse expression de l'être à trois, que j'ai reprise et que j'essaye de faire travailler dans d'autres cas aussi. Mais donc cette expression provient de là. Et dans ce texte aussi, vous allez le voir, je ne vais pas aujourd'hui vous parler de ce texte, parce qu'on y reviendra plus longuement, mais simplement pour vous montrer que cette question du serrage est antérieure au nœud borroméen. Des raisons supplémentaires pour lesquelles, effectivement, Lacan a trouvé dans le nœud borroméen, comme l'a dit, une bague au doigt. Vous vous souvenez, donc, juste en résumé, dans l'Holbechstein, le commentaire que en fait Lacan, il isole comme ça les deux scènes dans l'Holbechstein. La première scène qui est la scène... il y a deux scènes avec deux ternaires, deux trios. La première, donc, la scène de bal au casino de Tea Beach avec l'Holbechstein, Ebelstein et Richardson, Michael Richardson, et un aristrétaire, et donc où un aristrétaire donc dérobe, enfin Richardson à Ebelstein. Donc première scène, et où Ebelstein donc ne dit pas un mot et s'évanouit. Première scène. Deuxième scène, qui est la scène où Ebelstein, donc bien des années après, se trouve dans le champ de seigle et observe à la lumière de la fenêtre, dans l'encadrement de la fenêtre de l'hôtel, l'hôtel des bois, le rapport amoureux, sexuel entre Jacques Hold et Tatiana. Tatiana qui est son amie qui était déjà présente à la scène du bal, et Jacques Hold qui est son amant de Tatiana. Et donc elle les observe. Et donc de nouveau, donc tapis dans le champ de seigle, mais néanmoins vu par Jacques Hold et Tatiana. Mais donc deux trios, deux scènes avec deux trios. Et ce qui est donc notable, c'est que, vous voyez, on pense à l'analogie, par exemple, avec la lettre volée. Et il y a aussi les scènes comme ça avec les trois personnages. Et on pourrait dire, ben voilà, ces deux scènes, il y en a une qui répète l'autre. Pas du tout. Lacan prend bien garde de dire qu'il ne s'agit pas de dire, on n'est pas dans la répétition, quoi. Et ça, c'est aussi quelque chose qui vient avec cette logique des nœuds, c'est-à-dire, c'est pas, il dit bien qu'il ne dit pas que l'une répète l'autre. Hein. Donc, il n'y a pas de répétition, et il dit, ce n'est pas l'événement, mais un nœud qui se refait là. Et c'est ce que ce nœud enserre qui, proprement, ravit, mais là encore, qui ? Donc, il ne s'agit pas de répétition de scène, mais il s'agit d'une scène dans laquelle un nœud se défait, et d'une autre scène, une seconde scène, dans laquelle un nœud se refait. Hein ? Et et que si je signale, parce que pour ceux qui ont lu le roman, là il y a une petite notation qui est quand même intéressante, mais qui peut passer inaperçue, notation de Lacan. Vous savez, donc à la fin du roman de Ebelstein, Marguerite Duras raconte que Jacques Hold ramène, parce que donc Jacques Hold s'est intéressé à Ebelstein, et il la ramène à Tibitch, à la scène primitive, entre guillemets, pour en essayant peut-être que ça aurait un effet de débloquer quelque chose. Et et ça se passe pas bien, quoi. Et la fin du roman, c'est donc après le retour, ce deuxième retour à Tibitch avec Jacques Hold de Ebelstein, Marguerite Duras qui raconte encore, enfin qui décrit encore Ebelstein dans le champ de seigle en train d'observer la fenêtre où les amants se font l'amour, donc dans l'hôtel. Et donc vous savez que Lacan a été voir Marguerite Duras, enfin il a parlé avec elle avant d'écrire ça, il a parlé avec elle de ce roman, et il considère, il dit là que cette fin du roman au fond n'est pas juste. N'est pas juste du fait de ce que lui a dit oralement Marguerite Duras. Et il y a la phrase, c'est que la dernière phrase du roman ramenant Lol dans le champ de seigle me paraît faire une fin moins décisive que cette remarque. Donc la remarque précédente, à savoir que lorsqu'ils font cette espèce de pèlerinage à Tibitch, eh bien, Lol devient folle. dont en effet l'épisode porte des signes, l'épisode décrit par Duras, porte des signes, mais dont j'entends faire état ici que je le tiens de Marguerite Duras. Donc, c'est là Lacan nous dit quelque chose qu'il a, que Marguerite Duras lui a dit oralement et qui finalement contredit quand même la dernière scène du roman, quoi. Donc c'est assez intéressant, quoi. Bon, enfin, donc voilà, c'était pour vous, en tout cas, vous souligner ce mot enserre, ce que ce nœud enserre. Alors, je vous rappelle qu'on est en 65, là, et que Lacan n'a pas encore trouvé le nœud borroméen, et que ce à quoi il fait référence, semblerait que ça soit plutôt des surfaces, justement, le cross-cap ou pas. Mais enfin, en tout cas, il parle bien de nœud, d'un nœud qui se refait, et donc ça, quelque chose là qui en serre, et qui, si vous voulez, anticipe tout à fait l'usage qu'il fera des nœuds par la suite, y compris, par exemple, pour le fantasme, puisque qu'est-ce que ce nœud en serre ? Ça en serre le regard, hein. Ce regard qui n'est pas le regard seulement de Lol qui est voyeur justement, mais c'est à partir du fait qu'elle est vue, et c'est ce qui se passe qui la réalise, dit Lacan, hein. Dès lors est lisible que vous avez réalisé le fantasme de Lol, donc Tatiana et Lol réalisent le fantasme de Lol. Donc, le fantasme, c'est-à-dire, par rapport à la formule, c'est le fantasme dans lequel là, l'objet A est le regard. Le regard, donc, qui réalise le fantasme de l'homme. Donc, il y a là déjà quelque chose de l'ordre d'un serrage avec cette question du nœud du fantasme, bien que on soit, encore une fois, bien avant le... la question du serrage maintenant, la question du sujet, du serrage, du tiraillement avec le nœud borroméen. Le nœud borroméen, donc, c'est trois dimensions qui ne sont pas... on n'est plus comme dans les surfaces, si vous voulez, mais ces trois dimensions, ce n'est pas superposable aux trois dimensions de l'espace. Hein. Il s'agit, en fait, d'une division en trois de l'autre réalité que Freud appelait la réalité psychique, l'autre scène. Et qu'il a tenté, Freud, de schématiser avec ses dessins des deux topiques. Mais ces dessins de Freud donnent une idée de cette autre réalité, une idée de cette autre scène. Hein. Ils n'ont pas de réalité opératoire comme telle. Et cette réalité opératoire, c'est justement l'apport de Lacan que de... de fournir. Je sens peut-être une légère fatigue là dans l'assistance. Peut-être que marquer une pause.
Oui, on va parler de
parce que oui, je sens un peu là. Comment ?
Vous parlez du Pascal et de
toutes ces
choses.
Oui. Non, mais je ne vais pas parler du cross-cap là, parce que c'est une référence en 65 que fait Lacan dans le Stein, mais là j'en passe directement à la question des nœuds. Hein. Mais les nœuds, la question de l'air, quoi, et de ce rapport à la surface et au temps, toujours, surface et temps, chez Freud et chez Lacan, mais brièvement, quoi. Mais peut-être que je ne sais pas si vous considérez que.
Vous n'allez pas nous laisser sur notre fin là, parce que vous avez hein? parlé des deux copines de Freud, alors on peut continuer là.
Si vous voulez, oui. Je préférais que. On continue un peu encore. Hein. Bon, bah, d'accord. Oui. Non, mais. Oui, c'est. Parce que, si vous voulez, il faut bien voir aussi, et ça, Jean-Pierre Clairaut, dans un livre qui s'appelle La raison de la fiction, l'a très bien souligné, c'est. Il dit que la spatialité du psychisme est l'un des fils conducteurs les plus originaux de l'œuvre de Freud et l'un de ceux qu'il a le plus contribué à tisser inlassablement. Hein. C'est-à-dire, le psychisme, c'est l'étendue. Il n'y a pas, comme chez Descartes, il n'y a pas l'opposition, l'étendue et le psychique. Le psychique et l'étendue. Et ça, Freud a été très clair là-dessus. Par exemple, dans ses derniers tests, quand il dit « la psyché est étendue, je ne sais rien là-dessus hein, », contrairement à Kant. Quoi. Il s'oppose à Kant, il cite Kant. Voilà, c'est dans une note, dans « Résultat avec des problèmes ».« La psyché est étendue, je ne sais rien là-dessus ». Et voilà, la psyché est étendue. Et ça apparaît d'abord cette nature, cette caractéristique d'étendue du psychisme apparaît déjà dans toutes ces métaphores et bon, je ne vais pas la lire, mais enfin je vous l'indique pour que elle est complètement surréaliste, enfin de la métaphore qui se trouve au début de Malaise dans la civilisation. Où il décrit Rome, et où il décrit Rome avec les strates historiques donc, qu'on connaît de Rome, les successions comme ça des époques historiques de Rome, dont il reste quelques vestiges, recouverts par d'autres vestiges, même recouverts par d'autres vestiges, etc. Et lui donc détaille toutes ces. toute cette architecture et comme si ça pouvait être représenté simultanément en quelque sorte, comme s'il pouvait coexister toutes les étapes historiques de Rome quoi. Et que bon bah il dit ben oui ça c'est pas possible, on peut pas le faire, on peut pas, mais voilà dans le psychique c'est comme ça quoi. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'un peu surréaliste dans ce texte. Bon, et puis toutes ces autres métaphores spatiales, et puis bien entendu c'est ce qu'il appelle l'appareil psychique est une question du lieu, et là on retrouve la question du lieu, l'importance du lieu, sans que la question donc c'est là aussi où Lacan apporte quelque chose, c'est lui qui va reprendre le lieu avec le temps, alors que la question du temps chez Freud n'est pas présente, et pas présente dans le lieu, en tout cas, dans ce qu'il va décrire du lieu, il n'y a pas la question du temps. Donc Freud parle des localités psychiques, et la localité psychique correspond à un lieu à l'intérieur d'un appareil. Voilà. Il compare par exemple au microscope. Donc nous représentons l'appareil psychique comme un instrument. Composé de ce que nous appellerons les parties constituantes instances, ou pour mieux visualiser système. Hein, nous nous attendons à ce que ces systèmes aient peut-être l'un par rapport à l'autre une orientation spatiale constante, un peu comme dans les divers systèmes de lentilles, de la longue vue, se trouvant les uns derrière les autres. Alors, ces systèmes sont parcourus par l'excitation dans une succession temporelle déterminée. Mais voilà, ils sont parcourus dans une succession temporelle déterminée, quand même. Mais Freud aboutit à une visualisation du système dans son ensemble comme synchronique, c'est-à-dire comme visible d'un seul coup. C'est donc la première topique, et puis la deuxième topique, avec les deux schémas dits de l'œuf que vous connaissez, l'un dans le moi et le ça, et puis l'autre dans les nouvelles conférences d'introduction à la psychanalyse. Donc deux schémas un peu différents. Donc première topique avec perception, conscience, inconscient, préconscient, et deuxième topique où il reporte la première topique de perception, conscience, inconscient sur la deuxième topique dans le schéma de l'œuf avec le ça, le moi et le surmoi. Mais ce sont des schémas, quoi. Il le dit d'ailleurs, Freud le dit lui-même, enfin, qu'il ne faut pas les prendre. C'est juste pour avoir une idée, c'est-à-dire que Freud reste dans l'idée de ces topiques, alors que Lacan, lui, construit réellement des instruments de travail qui ne sont pas simplement d'ailleurs des instruments, enfin, si, qui sont des instruments de travail, mais qui ne sont pas en tout cas des idées, puisqu'il va jusqu'à identifier ces instruments à la réalité qu'il désigne. Par exemple, la bande de Möbius pour le sujet. Le sujet, c'est la bande de Möbius. Voilà. Donc il y a un rapport totalement différent avec la topologie pour Lacan et pour Freud. C'est que, bon, il y a des raisons à ça, c'est qu'effectivement, bon, ben, non seulement effectivement Freud n'a pas connu, enfin, n'a pas utilisé Saussure, mais il n'a pas non plus utilisé la topologie, et qui pourtant existait déjà de son temps. Il n'a pas utilisé tous les travaux de l'air et sur les transformations de l'espace et sur les nouvelles définitions de l'espace, que de l'air et de Klein, de Félix Klein, celui de la bouteille. Et c'est-à-dire que l'espace est moins quelque chose sur quoi l'on pratique des opérations de transformation que l'ensemble même de ces pratiques. Et donc pour lui, la Freud encore, l'espace, c'est quelque chose sur quoi, effectivement, on va, un schéma sur lequel on va mettre des notes. Mais ce n'est pas réellement l'ensemble des pratiques comme ça l'est pour le nœud borroméen, au point donc que Lacan dit, c'est en fonction des nœuds que nous devons penser l'espace, et non pas le contraire. Hein. Et cet espace est structuré comme le langage, car il fait partie de l'inconscient. Sinon. Donc ce n'est pas l'inconscient qui est plongé dans l'espace, c'est l'espace structuré comme qui fait partie de l'inconscient. Et c'est pas les nœuds qui sont, c'est pour ça que les nœuds, c'est pas les trois dimensions de notre corps, hein, c'est on pense notre corps, on pense l'espace avec les nœuds. Les nœuds, c'est-à-dire le nœud de réel, symbolique, imaginaire. Dans le réel imaginaire, il y a la surface du corps, voilà, dans le symbolique, le langage, le réel, c'est ce la possible. Donc, dès lors qu'avec le nœud borroméen, donc il y a d'une part cette transformation de ce rapport comme ça à l'espace, et qu'il y a équivalence entre les trois dimensions, réelle, symbolique, imaginaire, eh bien ça modifie l'abord de la notion de sujet. Hein, il n'est plus seulement abordable à partir de l'entre-deux des signifiants et de la coupure des surfaces. Et à partir de la topologie du nœud borroméen, et de ses propriétés, le sujet déterminé par une thématique et une mathématique du tiraillement, hein, du serrage de ces trois dimensions. Et pas plus que donc la bouteille de Klein ne constituait un microcosme par rapport à un macrocosme, pas plus les nœuds ne le font, puisque dans les nœuds borroméens, eh bien, l'enveloppé est aussi l'enveloppant de celui qui l'enveloppe, puisque il y en a un qui est au-dessus, l'autre qui est en dessous, et le troisième passe au-dessus de celui qui est au-dessus et en dessous de celui qui est en dessous. Donc l'enveloppé enveloppe celui qui l'enveloppe. Enfin, vous voyez, donc il n'y a pas là de représentation de cosmos, à proprement parler, qu'il soit micro. Et que, donc, c'est cette... à partir de là qu'il y a cette mésologie, pour reprendre le terme, la mésologie du tiraillement, la mésologie du coinçage, du serrage, hein, et qui peut prendre énormément d'aspects, mais qui ne sont pas pour autant n'importe lesquels, quoi. Donc c'est qui sont réglés, qui ont des... Et ainsi, par exemple, Lacan, je vais peut-être terminer là-dessus parce que ça fait du trou, mais il y a six façons de, par exemple, de faire une combinatoire de RSI, hein, selon l'ordre dans lequel ils sont. Avec les neurones, que ça donne. Hein. Donc RSI, donc il y a une combinatoire, c'est de l'ordre, si vous voulez, qui peut être soit RSI, hein, RSI. Donc il y a une première ligne qui va être RSI, et si on change la place de chacun des termes, ça donnera ensuite SIR. Hein, S-I-R, on a fait basculer le R ici, et là on fait basculer le S ici, ça fait I-R-S, voilà. Donc ça c'est une première série, et il y a une autre, l'autre combinatoire, c'est le contraire, I-S-R, I-S-R, R-I-S,
hein.
S-R-I, S-R-I. Oui, SRI. SRI, RIS. Voilà. Bon. Et, si vous voulez, Lacan nomme ces deux séries les Vaugires, l'une les Vaugires et l'autre l'Estrogire. Parce que selon la façon dont ça tourne, c'est-à-dire que ces deux, si vous voulez, ces deux séries, c'est ça qui est, si vous voulez, c'est un exemple de ces modalités de coinçage, c'est que ces deux séries, si vous voulez, obéissent à certaines façons des anneaux d'être superposés, si vous voulez. Alors, il y a la série qui sera... Et c'est arbitraire, dire les Vaugires ou les Estrogires. Enfin, disons, une série de les Vaugires, donc on l'appelle comme ça, hein, ça tourne comme ça, si vous voulez, et puis l'autre série qui va tourner dans le sens inverse. Une qui tourne comme ça, ça, et l'autre comme ça, et comme ça. Bon. Enfin, c'est peut-être pas très bien fait ici, mais bon, ça correspond. Voilà. Alors là je l'ai fait comme ça, au hasard. Donc celui-là, ça correspond à ça. Ça va. C'est ça. Hein. Ça, c'est ça. Et ça, comme ça. Voilà. Donc ça, on va le dire, c'est la série des Vosgiers. Voilà. Donc dans cette disposition-là des trois, ça fait une série les Vosgiers. Hein. C'est-à-dire que dans cette disposition-là des trois, mettons, si on appelle celle-là les... Voilà, voilà. Donc on va retrouver cet ordre-là. Donc ça fait ce type, si vous voulez, ça fait ce type de tiraillement entre ces trois-là. Et bien, si on le fait... Et alors, puisqu'ils sont équivalents, c'est-à-dire que si on retourne ce nouveau miroir-là, si on le retourne, ça sera pareil. Hein, il n'y a pas d'image miroir. Si on le retourne, ça sera pareil. Par contre, si on fait passer, par exemple, pour passer de la série l'évogire à l'extrogire, il suffit de, par exemple, faire, si vous voulez, vous voyez, on fait passer l'anneau, par exemple, du haut, hein, qu'on appelle R, on le fait passer, vous voyez, comme ça, on le retourne, on le fait passer par en dessous, vous voyez. Et au lieu comme ça, on le retourne comme ça. Donc, il va venir là, si vous voulez. Essayez. Et donc là, ça fait passer de l'évogire à l'extrogire. Mais ce qui. Lacan donne une certaine importance à ça, c'est-à-dire de se remarquer que dans ce mode-là, on peut dire ce mode de tiraillement, vous voyez, ce mode de tiraillement obéit quand même, c'est un exemple, hein, il y en a d'autres, mais. C'est un exemple où ça obéit à quelque chose qui est quand même dont on peut parler, qui a ses propriétés, on peut dire on peut passer de l'un à l'autre, on peut c'est en miroir ou pas en miroir, etc. Mais on peut en faire quelque chose, et par exemple Lacan comme toujours, si vous voulez, se fie à la littéralité même de ce qu'il manipule, et c'est ce qu'il propose, d'ailleurs, mais ça, on y reviendra, peut-être, c'est ce qu'il propose d'être bête, justement. Hein. D'être bête, c'est ce qu'il reprendra avec la question des noms du père, quoi. Il faut être dupe de ça, c'est pas... Il faut le faire, et puis bon, après, on voit ce que ça donne, mais faut pas chercher à... faut se laisser faire par la logique même, si vous voulez, de la littéralité de ça. Et que donc, ces trois, par exemple, ces trois séries, RSI, il va appeler ça, par exemple, réaliser le symbolique de l'imaginaire, symboliser l'imaginaire du réel, imaginer le réel du symbolique. Et ça, il le fait correspondre à des choses finalement assez précises. Puisque ceux qui réalisent le symbolique de l'imaginaire réalisent le symbolique de l'imaginaire, donc RSI. RSI, eh ben c'est quoi? C'est la religion. Hein, c'est ce qui réalise en termes propres le symbolique de l'imaginaire. C'est bien ce qui fait que la religion n'est pas prête de finir. Et ça nous met, nous, analystes, du même côté, du côté l'évogire, par quoi, imaginant ce qu'il s'agit de faire, imaginant le réel du symbolique, hein, donc. Imaginant le réel du symbolique, IRS, notre premier pas, fait depuis longtemps, c'est la mathématique. Et le dernier, c'est ce à quoi nous conduit la considération de l'inconscient, pour autant que c'est là que se fraye, je le professe depuis toujours, c'est de là que se fraye le linguistique. C'est-à-dire que c'est à étendre le procédé mathématique qui consiste à s'apercevoir de ce qu'il y a de réel dans le symbolique, que c'est par là qu'est pour nous dessiné un nouveau passage. Donc, vous voyez, c'est... C'est des jeux quand même enfin, qui sont lourds, très lourds de conséquences. Quoi. Enfin, alors, mais tout ça à partir de ce fond, de cette logique de serrage, hein, proprement dit. Donc, c'est pas excessif de parler d'une logique du serrage parce que réellement, ça emporte des conséquences. Quoi. Alors, pour conclure, alors là, peut-être cette fois-ci. Alors, voilà, ben on en revient, si vous voulez, à... parce que, donc là, bon, il y a eu ce petit chapeau sur Freud, l'espace, beaucoup. On revient sur Lacan avec ce serrage qui, vous voyez quand même, prend du temps, le temps de le faire, le temps de le dessiner, le temps de suivre, de se tromper, de rectifier, et le temps de parcourir les étapes dans un sens, dans un autre. Bon, le temps est impliqué. Et donc, Lacan dit, à propos de ça, du temps, c'est... que le temps n'est peut-être qu'une succession de tiraillements. C'est peut-être ça, le temps, une succession de tiraillements. Je retrouve plus la citation. J'ai pas apporté. Comment ?
Hein ? C'est pas grave.
Bon, donc c'est une succession de tiraillements. Donc on revient, si vous voulez, sur cette question. Qu'est-ce que c'est que cette succession de tiraillements ? Est-ce que cette succession de tiraillements, si c'est un nouvel abord de la question du temps, est-ce que elle est complètement compatible avec le temps logique ou pas ? Est-ce que c'est totalement différent ou pas, ou partiellement ? Voilà. Le temps logique n'étant pas exclu de cette question du neuroméen, parce que Lacan refait une version encore du temps logique dans ce séminaire qui est le séminaire sur les noms du père. Donc ça c'est une question, vous voyez, qui reste en suspens. En tout cas, ce que ça nous a sur quoi on est arrivé, disons, là, c'est que le sujet, ce n'est pas simplement l'entre-deux signifiant, hein, c'est de prendre en compte le temps de tiraillement dans les trois dimensions de RSI, et de prendre en compte l'importance du mot R, l'air, le serrage, comme ça, la question du mot R, on le verra la prochaine fois, et de situer. Et donc le sujet entre deux airs et pas simplement entre deux signifiants. Et ça, c'est la question de l'air et du l'association qui ne va pas de soi entre errer l'air et le dupe, être dupe, non, puisqu'il y a quatre termes, là, errer, ne pas errer, être dupe, ne pas être dupe, que Lacan associe. Bon, on commencera à voir ça là, la prochaine fois. Non, je ne sais pas si bon, non, vous connaissez tous, ce que j'avais aimé cette citation du poème de Dubélé, Heureux qui comme lui, ça fait un beau voyage. Un beau voyage. Un beau voyage. Donc, je vous cite, il y a quand même quelque chose qui m'est apparu curieux. Je ne sais pas si vous. Ça vous paraît curieux aussi. Heureux qui comme lui, ça fait un beau voyage, ou comme celui-là qui conquit la toison, et puis est retourné plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous paraît un peu curieux? Parce que s'il retourne vivre le reste de son âge entre ses parents, ça veut dire que ses parents, ils sont éternels ou quoi? Non? Comment?
On peut l'entendre comme sa racine, c'est-à-dire les parents, même s'ils sont là. Ça peut être ses enfants.
Oui, bien sûr. Vivre entre ses parents le reste de son âge. Mais entre ses parents. Entre ses parents.
Ils demeurent leur terre. Mais je crois que c'est
pas ouais. Oui, oui, oui. Comme ça qu'il faut.
La terre, ça s'occupe de la terre.
D'accord, bon. Donc, est-ce que vous avez des questions là ou c'est... Non, peut-être deux, trois questions quand même. Oui, oui.
Quand tu as parlé du moment des conclures et conclusion faite, tu as dit le moment est passé et du coup il faut recommencer.
Mm-hmm.
Alors, est-ce que c'est dans le même espace?
Ah.
C'est là, il y a.
Oui, oui, oui. Oui. Ben, non, sans doute. Hein.
Parce que sinon, ouais. Ça ferait un peu...
Oui, 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 bien sûr, c'est pour ça que c'est...
C'est pas le même espace.
Ben oui, 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 c'est pas le même espace. Oui. Oui, c'est pour ça que la question de l'espace, bien sûr, le lieu est importante, quoi. Que c'est dans le temps, quoi. Il y avait d'ailleurs une nouvelle, il semble, de Borges, d'un univers où il n'y a que le temps et pas du tout l'espace, quelque chose comme ça. Et c'est pas très vivable. Non, mais c'est parce que je... C'est vrai que l'approche en général de la topologie, c'est de dire bon ben on est dans l'espace et tout, et on oublie que c'est le temps très largement aussi, enfin, c'est même plus le temps que l'espace. Et que le temps, pourquoi le temps? Parce que le temps c'est le signifiant, le temps c'est le sujet, quoi. C'est ça qui est la question, une autre raison pour laquelle la question des nouveaux sujets est une.
Ouais.
Enfin, n'a rien de blancadien, en tout cas.
Pour reprendre le rêve de Freud, quand il dit il ne savait pas qu'il était mort, le père ne savait pas qu'il était mort, mais on peut aussi penser que c'est le fils qui ne savait pas qu'il était mort, en rêve. Parce que le « il » reste quand même très énigmatique, ce « il ». Qui ne savait pas qu'il était mort? C'était le père, le fils ou les deux? Enfin...
Oui, non mais ça, si vous voulez, c'est le... Dans le texte du rêve, là je ne l'ai pas, mais c'est... Dans le texte du rêve, c'est raconté comme le père ne savait pas qu'il était mort. Mais l'interprétation, c'est effectivement de dire... que ça se retourne sur le...
Sur le sujet,
mais que... c'était ce il ne savait pas que ça se retourne sur le sujet, mais sur le sujet en tant que la menace de mort le concerne lui-même. Mais c'est pas c'est pas au sens où le sujet ne savait pas que son, enfin, le fils ne savait pas que son père était mort. Non, c'est pas ça.
Mais je trouve que c'est réversible quand même. Enfin,
oui, oui, mais c'est, si vous voulez, c'est, oui.
Enfin, moi, je l'ai entendu de façon réversible. Mais...
Oui, mais c'est autre chose, alors, à ce moment-là. Enfin, c'est, si on fait, effectivement, cette interprétation, c'est autre chose. Et ça peut être du genre d'une, enfin, une chose que, qu'on constate, enfin, une sorte de déni de la mort de l'autre, quoi. C'est-à-dire que, bon, on sait qu'il est mort, mais on s'attend à le voir à tout instant. Donc, je sais qu'il est mort, mais il n'est pas mort. Ça, c'est... Quand on a perdu quelqu'un, je crois que tout le monde ressent ça plus ou moins longtemps, et bon... Mais c'est pas ça qui est dit dans le rêve, disons. Mais c'est tiré de ce côté-là, mais enfin, c'est pas... Comme à chaque séance, je pense un peu plus de retard sur. Les dates de mai, c'est le 10 mai.
Bonjour.
Bonjour.
Enfin.